Bonjour à tous. Nous sommes toujours heureux de nous retrouver parmi vous. On constate que chaque fois que l'on vient, tout change. Des visages, certains nouveaux, certains anciens qui changent. Les bâtiments changent. Tout change. C'est très bien. Nous aussi, nous changeons. Avec Sylvia, nous attendons notre 17e. Petit enfant, bien entendu. Sylvia ne s'appelle pas Sarah et moi non plus Abraham. Donc, nous sommes en tout cas heureux d'être avec vous. Je vais lire quelques textes de l'épître de Paul aux Philippiens et aborder un thème qui n'est pas forcément des plus populaires, mais un thème avec lequel, en chrétien, il faut nous réconcilier. Je vous annonce le thème dans un instant, mais pour l'instant, nous allons lire dans l'Écriture à partir du chapitre 1, donc de cette lettre. Verset 27 qui introduit une nouvelle section dans cette lettre. Paul, il est en prison vraisemblablement à Rome, et cela fait depuis 10 ans qu'il a fondé cette église de Philippe. Cette église de Philippe ne devait même pas exister. Paul n'avait aucune intention d'aller à Philippe. Vous vous souvenez, donc après le premier voyage missionnaire, Paul dit à Barnabas, « Allons visiter les églises que nous avions fondées en Galatie. » Et puis, il y a eu une majeure dispute entre Paul et Barnabas au sujet de Jean-Marc, parce que Barnabas voulait amener Jean-Marc avec eux et Paul ne le voulait pas. À tel point, ce n'était pas une question doctrinale, mais à tel point, cette histoire de prendre ce jeune collaborateur a obligé Paul et Barnabas de se séparer. Paul, il prend Silas. En route à Lystre, il recrute Timothée. Et Paul, avec son équipe, voulait aller probablement vers Éphèse. Le texte dit, le Saint-Esprit les empêche. Ensuite, ils veulent remonter vers le nord, ouest, vers la Bithynie. Le texte, le Saint-Esprit les empêche. Comment? On n'en sait rien. Mais en tout cas, Paul avait des intentions autres. L'Asie, le sud-est asiatique, et puis la Bithynie. Puis arrive finalement à Troas, un Macédonien vient. Et finalement, Paul arrive avec ses compagnons à Philippe. Une église qui n'avait nullement l'intention d'implanter, et pourtant le Seigneur conduit dans cette ville, et une église est née. Il aime particulièrement cette Église. On se rend compte en lisant cet épître aux Philippiens et on trouve dans la bouche ou dans cette lettre de la part de Paul un langage qui n'est pas très familier. Il dit « Je vous chéris avec l'amour de Christ ». Il aime cette Église, mais il ne se fait aucune illusion quant à finalement l'état de santé de cette Église. Et dans cette lettre, il décrit un petit peu les problèmes dont il a conscience dans cette église de Philippe. Et en même temps, il les exhorte à rester fermement attachés au message qu'il leur a apporté, le message de l'Évangile. Et ici au verset 27, il écrit donc depuis sa prison, probablement à Rome, 10 ans après la fondation de cette église de Philippe. Et il dit seulement, conduisez-vous, seulement veut dire avant toute chose. C'est une priorité. En tout premier lieu, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. Afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Seulement, avant toute chose, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile. Et aussitôt après, Paul nous donne ce passage extraordinaire sur Christ et son obéissance. Ces quelques versets, en début du chapitre 2, ce sont des versets des plus émouvants, où l'on se rend compte finalement de tout le chemin parcouru par Christ, quittant la gloire volontairement, se dépouillant volontairement de ses prérogatives divines, devenant un homme, et en tant qu'homme, devenant obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est pourquoi Christ l'a souverainement élevé. Et puis le passage que nous voulons étudier ce matin, à partir du verset 12, « Ainsi, c'est pourquoi, mes frères bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action, non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. » Je relis le verset 13 de manière un peu plus juste. « Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire pour son plaisir. Faites tout sans murmure ni discussion, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans reproche, au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Ce sera mon sujet de gloire au jour de Christ, de n'avoir pas couru ni peiné en vain. Mais même si je cède de libation en plus du sacrifice et de l'offrande de votre foi, je m'en réjouis, et je me réjouis avec vous tous, vous aussi. Réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. » Parole de Dieu. Avant toute chose, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile. L'Évangile est le fondement de notre foi. L'Évangile est au centre de notre foi. Et Paul dit qu'il doit y avoir une cohérence entre cet évangile qu'il a annoncé et notre comportement. Avant toute chose, conduisez-vous d'une manière digne de cet évangile. Et le mot, le thème, certes pas très populaire, mais qui finalement découle de cette exhortation dans tout ce chapitre 2, c'est finalement ce mot « obéissance ». L'obéissance. Notre manière de nous comporter d'une manière digne est d'apprendre ce qu'est l'obéissance dans la pensée de Dieu. Et pour que nous comprenions ce qu'est l'obéissance dans la pensée de Dieu, Paul nous donne cette illustration extraordinaire de Christ. Lui, avec tous ses droits et toute sa gloire, il a appris et démontré ce qu'est l'obéissance. Et fort de cet exemple, en quelque sorte, Paul dit, nous n'avons aucune excuse. Devant son exemple d'obéissance, qui sommes-nous pour murmurer, revendiquer? Et donc, il démarre cette exhortation à l'obéissance dans notre vie, conforme au message reçu, l'Évangile, par « c'est pourquoi, puisque Christ a obéi, vous aussi, frères, vous êtes appelés à l'obéissance. » Et ce que j'aimerais juste souligner dans ce passage avec vous, dans les versets 12 à 18, c'est les mobiles qui doivent nous pousser à obéir. Pourquoi est-ce que j'obéis? Parfois, l'obéissance peut devenir un but en soi. On obéit tout simplement parce qu'on a érigé l'obéissance en but de notre vie. C'est comme ceux qui font de la discipline le but de leur vie plutôt que d'un moyen pour permettre aux personnes de progresser et avancer. L'obéissance n'est pas un but. Et ce qui est extraordinaire dans ce passage que nous avons lu, ce sont les motivations que Paul met en évidence qui doivent finalement nous pousser à obéir. Bien sûr, pour beaucoup d'entre nous, nous sommes probablement à cheval, parfois dans la confusion, entre ce qu'est le légalisme et l'obéissance. Quelle est la différence entre le légalisme? Il n'y a qu'à, il ne faut que. Touche pas, goûte pas, n'y va pas. Quelle est la différence entre obéissance et légalisme? Et c'est ce que nous allons tenter de dégager de ce texte, mais entre autres, et cela deviendra très clair à partir du moment où nous voyons cette première idée, le légalisme, finalement, a comme motivation de plaire aux hommes. Le légalisme a comme motivation l'auto-satisfaction. C'est toujours finalement l'idée de plaire aux autres. Et cela est fortement, fortement critiqué par le Seigneur Jésus lui-même. Nous sommes appelés avant tout à être agréables à Dieu et non aux hommes. Et le légalisme a comme motivation première être agréable aux hommes ou même être agréable à moi-même, me faire plaisir. Finalement, c'est l'orgueil de ma vie quand j'obéis et je me satisfais de mon obéissance. Mais Paul dit non, ce n'est pas ça. Et ici donc, à partir du verset 12, il nous appelle à l'obéissance. Et la première motivation qui met en évidence, c'est pour ça que j'ai relu le verset 13, c'est « pour son plaisir », pour plaire à Dieu. Et il dit ici que notre obéissance, au début du verset 12, ne doit pas dépendre de qui nous observe. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action, non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Il a déjà dit, dans l'autre passage que nous avons lu à la fin du chapitre 1, est-ce que vous avez constaté combien souvent notre manière de nous comporter dépend de qui nous observe? Et Paul dit non, non. Ça, il faut éliminer de notre façon de concevoir la vie chrétienne. Nous pouvons finalement avoir une manière de nous comporter le dimanche matin au culte ou lorsqu'il y a d'autres chrétiens qui nous observent et une toute autre manière de nous comporter quand il n'y a personne apparemment qui nous observe. Notre obéissance ne doit jamais dépendre de qui nous observe, si ce n'est Dieu lui-même, parce que Dieu nous observe. Et Paul ici nous exhorte donc à l'obéissance sous le regard de Dieu et pour son plaisir. Et comment conçoit-il cette obéissance? Mais là, on ne peut pas l'éviter avec un texte qui a fait passablement courir d'encre. Mettez votre salut en action ou travaillez à votre salut. Certes, si on sort cette phrase de son contexte, on a l'impression que Paul va à l'encontre de tout ce qu'il a enseigné ailleurs. Parce qu'on sait que ce n'est pas finalement par les œuvres ou par nos efforts que nous allons parvenir au salut. Le salut et l'initiative de Dieu est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Que veut dire donc « travailler à votre salut »,« mettez votre salut en action ». Alors la première chose qu'il faut dire, c'est qu'il ne peut pas y avoir une contradiction. Si d'une part Paul dit que le salut est un don de Dieu et ce n'est point par les œuvres, ce n'est pas ici dans ce verset, dans cette phrase qui dit le contraire. Il y a donc quelque part une complémentarité à rechercher. Le salut dans l'Écriture ne se réfère pas rien qu'à notre conversion. Nous avons trop l'habitude de penser au salut par rapport à notre statut ou par rapport à un événement. Es-tu sauvé? T'es-tu converti? Et très souvent, en pensant au salut, nous pensons au début de notre vie chrétienne, au jour de notre conversion. Mais le mot « salut » est beaucoup plus large. Le mot « salut » couvre finalement le début jusqu'à la fin. Le mot « salut » couvre tout le processus de l'œuvre de Dieu dans notre vie. Ce que nous appelons parfois la justification, l'œuvre de Dieu pour nous déclarer juste, et la sanctification, le processus pour nous rendre davantage ressemblants à Christ. Et le salut couvre tout cela. Et c'est ce que Paul dit au chapitre 1 et le verset 6. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne va poursuivre cette œuvre et va l'achever pour le jour de Jésus-Christ. » Ça, c'est le salut C'est le commencement jusqu'à la fin. Donc le salut, c'est un processus. Et c'est dans ce sens-là que Paul nous dit que nous avons besoin de travailler à notre salut. Non pas comme étant un incident unique qui a eu lieu X années en arrière, mais faisant référence à tout ce processus, notre cheminement jour après jour, année après année. Je peux dire, par exemple, à un jeune couple, travaillez à votre mariage. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas mariés. Ça veut dire qu'ils sont mariés, mais qu'il faut finalement travailler pour constamment approfondir leur communication et leur relation. Et c'est ce que Paul dit ici. Vous êtes sauvés, mais il faut travailler à votre salut pour que progressivement ce salut soit davantage manifeste, davantage observable dans votre vie. Ce qui était extraordinaire dans ce texte, Paul n'est pas en train de s'adresser à des individus. Il n'est pas en train de dire « Pierre, André, Jean, Charles, travaille à ton salut. » Il s'adresse à la communauté. Et l'église de Casimir Perrier, Paul adresse cette exhortation « Ensemble, collectivement, travaillez à votre salut. » Nous avons la même idée, si ce n'est pas très clair pour l'un ou l'autre, dans l'épître qui précède, l'épître aux Éphésiens, où Paul dit au chapitre 1, verset 7, « En lui, nous avons la rédemption. » Nous avons la rédemption. Mais en même temps, un tout petit peu plus loin, au chapitre 4 et verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu pour lequel ou par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Nous sommes rachetés. Nous serons rachetés. Nous sommes sauvés, acte définitif de l'initiative de Dieu dans notre vie, mais ce salut s'opère dans notre vie jour après jour et au jour de son avènement, ce salut, cette œuvre de salut sera parfaitement accomplie. Il y a en quelque sorte le déjà, je suis sauvé, et le pas encore, je serai sauvé. Et ce salut dont il est question ici, travailler à votre salut, c'est le processus dont Paul parle. Mais, à cet égard, travailler à votre salut. Ici, on est inévitablement confronté à l'un des mystères de la vie chrétienne. Et je n'ai pas la prétention de pouvoir vous décrire ce mystère ce matin. Nous sommes ici confrontés, finalement, entre tout ce qui est l'initiative, la part de Dieu dans notre vie et finalement notre responsabilité de faire tous nos efforts, d'y participer. Nul ne peut évacuer de la pensée biblique l'initiative extraordinaire de Dieu. En fait, au chapitre 1, verset 6, Paul dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, Dieu a commencé en nous cette œuvre. » C'est Dieu qui a pris l'initiative du salut dans notre vie. Paul dit aux Éphésiens, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. » Et nous sommes constamment confrontés dans l'Écriture à l'initiative de Dieu dans l'œuvre du salut. Ce n'est pas vous qui m'avez aimé en premier, mais c'est moi qui vous ai aimé en premier. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Nous sommes donc confrontés à deux vérités également vraies. L'initiative de Dieu dans le plan du salut pour l'être humain, et en même temps, nous participons, nous avons une responsabilité, dit Paul, de travailler à notre salut. Mais en même temps, Paul continue dans ce texte, au verset 13, encore une fois pour mettre l'accent sur l'initiative de Dieu. Par rapport à cette exhortation de travailler collectivement en tant que communauté à notre salut, c'est lui qui nous donne le vouloir et le pouvoir. C'est lui qui opère en nous le vouloir au niveau de la pensée, et c'est lui qui nous donne également, par son esprit, bien sûr, la force de travailler collectivement ensemble pour que le salut se manifeste davantage dans la vie de la communauté, pour que ceux qui nous observent depuis l'extérieur puissent se rendre compte qu'ils sont différents. Certes, ils sont toujours fermement implantés, deux pieds sur terre, mais ils ne vivent pas la vie comme moi. Ils ne sont pas esclaves de toutes les passions comme moi je le suis. Ils sont en quelque sorte sauvés de tout ce qui me rend esclave. Mais ici, Paul nous introduit finalement à ce mystère. Le mystère de l'extraordinaire initiative de Dieu, c'est lui qui a commencé en nous cette bonne œuvre. C'est lui qui nous donne le vouloir et le pouvoir de travailler à notre salut. Mais en même temps, nous sommes appelés à participer. Travailler à votre salut. C'est donc tout un cheminement d'obéissance auquel nous sommes appelés pour travailler à notre salut. S'il nous donne le vouloir, finalement, pour travailler à notre salut, c'est que nous devrions alimenter notre pensée, parce que le vouloir, ça se passe au niveau de notre pensée, la pensée précède les actes. Et par conséquent, puisqu'il nous donne le vouloir, comment est-ce qu'il nous donne le vouloir? Mais ce n'est pas l'écriture qui transforme notre entendement, qui change notre perception du monde, du péché. C'est l'écriture finalement qui renouvelle notre pensée, et à partir du moment où notre pensée est renouvelée, bien sûr, par l'esprit, nous avons la capacité de vivre, faire autrement. Cette semaine, à l'Institut, j'ai eu mon premier cours, entre autres avec un jeune qui provient de l'église de Casimir Perrier, dénommé David. On est en train de le mater déjà. Mais dans ce cours, en première année, premier cours que je donne, c'est tout ce qui est fréquentation, sexualité, mariage, tout simplement parce que les jeunes sont appelés à vivre dans une certaine promiscuité, dans une ambiance un peu artificielle, en collectivité. Et par rapport finalement à tout ce qui peut être la tentation, je les ai introduits ou rappelés cette vérité extraordinaire que la mort de Christ à la croix nous libère de la condamnation du péché, mais aussi du pouvoir du péché. La condamnation, nous n'avons pas forcément autant de difficultés avec qu'avec la notion du pouvoir du péché. Parce que parfois, nous pensons que le pouvoir du péché est tout aussi fort qu'avant notre conversion. Mais c'est l'Écriture, finalement, qui nous imprègne, qui progressivement, petit à petit, change notre pensée, change notre perception de la réalité, transforme notre manière de voir, de regarder. Et en fonction de cela, ça nous permet effectivement de vivre également par le Saint-Esprit la capacité de vivre en sauvé, en celui qui est sauvé. Paul dit donc qu'une partie de notre obéissance, c'est lié à notre manière de vivre le salut. Et il dit que c'est pour le plaisir de Dieu. Ça, c'est donc la fin faux de cette exhortation. Nous sommes appelés à obéir, à vivre, à incarner le salut dans notre quotidien, mais en tant que communauté, et nous sommes appelés à le faire pour son plaisir. Dans la vie du couple, il est trop facile de vivre la vie du couple où finalement tout tourne autour de moi-même et où finalement c'est pour mon plaisir, c'est pour mon épanouissement. On vit quelque chose de très significatif, mais il est tellement facile en tant que couple de vivre de manière très égoïste. Accessoirement, on dit à l'autre « je t'aime », mais quelque part dans la relation, c'est moi qui suis au centre. Mais l'apogée dans la vie du couple que nous devrions vivre, c'est de vivre pour le plaisir de l'autre. Et à partir du moment où nous vivons pour le plaisir de l'autre dans la vie du couple, nous nous faisons plaisir de toute manière. C'est pour notre bien. C'est ce que dit Paul en Éphésiens 4. À partir du moment où nous vivons pour le plaisir de l'autre, nous-mêmes, nous nous faisons un bien énorme. Nous y trouvons une profonde satisfaction. Et en quelque sorte, c'est vrai ici. À partir du moment où nous voulons vivre pour son plaisir, à partir de ce moment-là, nous faisons un bien énorme, parce que Dieu veut notre bien aussi. Mais notre bien passe par cette motivation pour son plaisir. Ensuite, à partir du verset 14, Paul nous introduit à une autre notion dans la motivation pour l'obéissance. Nous obéissons en travaillant à notre salut pour son plaisir. Mais ensuite, à partir du verset 14 et 15, jusqu'au début du verset 16, une partie de notre motivation dans l'obéissance est authentifier l'Évangile. Authentifier l'Évangile. Faites tout, sans murmure ni discussion, pour être irréprochable et pur, des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Toute une partie de notre motivation dans l'obéissance, c'est d'authentifier l'Évangile face à ceux qui nous observent depuis l'extérieur, dans un monde, dit Paul, corrompu et pervers. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment Paul formule cette idée. Il nous dit que nous sommes appelés à nous comporter comme des enfants de Dieu. Il n'est pas en train de nous introduire à des méthodes d'évangélisation. Il n'est pas en train finalement d'organiser une colloque. Comment atteindre quelqu'un dans un monde postmoderne? Il n'est pas en train de nous introduire à un certain nombre de propositions de vérité. Il est en train de dire en quelque sorte, le témoignage dépend de notre manière de vivre en tant qu'enfant de Dieu. Il est en train de dire que nous devrions, de par notre témoignage, montrer qui est le Père, comment est le Père. Et au fond, n'est-ce pas le plus important? En quelque sorte, nous sommes des poteaux indicateurs vers Dieu. Nous ne sommes pas là dans le témoignage tout simplement pour gargariser et débiter nos quelques idées sur ce qu'est l'Évangile et après penser que nous avons témoigné. Nous sommes là pour dire, connais-tu mon Père? Sais-tu comme il est? Nous sommes appelés donc à démontrer à un monde corrompu et pervers qui est Dieu, qui est le Père, comment est le Père. C'est tout autre chose dans le témoignage. D'être finalement celui qui dirige le regard vers l'autre, vers Dieu. Nous vivons dans un monde ou soit que Dieu est totalement évacué de l'équation, totalement ignoré, où les personnes sont soit athées, soit indifférentes. Nous vivons dans un monde où même ceux qui croient ou professent croire en Dieu ont une perception de Dieu totalement étriquée et fausse. Et par conséquent, nous sommes appelés à démontrer qui est Dieu. Qui est le Père? Comment est le Père? Texte que nous avons lu avant la Sainte-Cène ce matin est pertinent. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous n'avons pas simplement un ensemble de vérités à communiquer sans négliger l'importance de ces vérités, mais nous avons surtout à démontrer qui est Dieu. Qui est Dieu? Et Paul dit, ça, c'est finalement une partie de notre obéissance. Ensemble, en tant que communauté, prendre la ferme résolution, dans un monde corrompu, pervers, de vivre en tant qu'enfant de Dieu pour démontrer qui est le Père. Et Paul n'hésite pas, y compris dans cette église de Philippe, qu'il aime tendrement, de dire, et à plusieurs reprises dans l'épître, « Faites tout sans murmure ni discussion ». Si vous lisez cette épître de plus près, vous constaterez que cette église n'était quand même pas une église parfaite. Certes, l'une de celles que Paul aimait passionnément, mais une église avec ses problèmes. Dans cette église, il y avait des rivalités. Paul en parle là au chapitre 1 en disant, « Certains, il est vrai, prêchent le Christ, l'Évangile, par rivalité, dans la volonté de me créer du tort. » C'est incroyable de croire qu'il peut y avoir des personnes qui prêchent l'Évangile, mais dans l'idée de faire du tort à d'autres qui prêchent l'Évangile. Il faut être un tout petit peu plus réaliste sur nous-mêmes, avoir un regard un petit peu plus terre à terre sur qui nous sommes. La rivalité, ça existe dans toutes les églises. Moi, je suis prédicateur, enseignant. Quand je suis seul prédicateur, ça va assez bien. Mais quand je dois partager, finalement, lors d'une conférence ou un congrès, la plateforme avec d'autres, ne croyez surtout pas qu'il n'existe pas dans mon cœur, parfois, l'idée de vouloir faire mieux que l'autre. C'est profondément humain. Je suis constamment en train de lutter contre ça lorsque, finalement, je fais partie d'un groupe d'enseignants qui doivent apporter différentes études. On veut toujours briller plus que l'autre. Et ça se passe au niveau des prédicateurs, au niveau des enseignants, au niveau des responsables d'école de dimanche, au niveau des animateurs de groupes de jeunes. C'est dans le cœur humain. C'est dans le cœur humain. Et dans cette église de Philippe, ça existait aussi. Il y avait même des conflits ouverts, chapitre 4, verset 2, entre deux sœurs, probablement membres fondateurs de cette église de Philippe. Un conflit ouvert, ces deux femmes qui ne se supportaient plus. Elles arrivaient peut-être par la même porte, mais elles s'assoyaient à deux extrêmes de l'église le dimanche. Bien sûr, ça n'existe pas dans l'église de Casimir Perrier. Ça ne peut pas exister. Non. Conflit ouvert. Murmure, discussion. Paul fait allusion ici, bien entendu, au peuple d'Israël dans le désert. Murmure, discussion. N'était pas plus vite dans le désert qu'il commençait à finalement réclamer une autre nourriture, des sources d'eau, et il se plaignait, il murmurait, il discutait, il revendiquait. C'est une condition humaine, omniprésente. Murmurer, discuter. Jusque dans l'église de Philippe, et jusque dans l'église probablement de Casimir Perrier, des murmures, des discussions, des revendications. Pourquoi est-ce qu'on a toujours ces chants-là? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore quelques chants de sur les ailes de la foi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Des murmures, des discussions sans fin. Est-ce qu'on a toujours besoin finalement de batterie? Est-ce qu'on a toujours besoin finalement de ceci ou de ça? Est-ce qu'on ne peut pas? Et derrière les coulisses, murmures, discussions. Mais ce qui est dramatique, les amis, ce qui est vraiment dramatique, c'est que Paul, finalement, ici fait référence à Israël dans le désert. Et il met en exergue les textes de Exode 15 et 16, où Moïse se trouve confronté aux murmures, discussions, revendications du peuple. Et Dieu, à un moment donné, dit ceci, « Moïse, ce n'est pas contre toi qui murmure, mais c'est contre moi. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui a établi Moïse comme chef du peuple. Moïse n'était pas parfait. On pourrait faire toute une étude sur Moïse pour démontrer les failles et les échecs dans la vie de Moïse. Facile. Mais Moïse était établi par Dieu comme responsable pour ce peuple, pour conduire ce peuple dans le désert. Et à partir du moment où Dieu avait établi Moïse, Dieu dit, quand il murmure contre toi, c'est contre moi qu'il murmure. Il met ses murmures et ses revendications en perspective. C'est Dieu qui a établi dans l'Église les anciens, les responsables. Et quand on murmure, Parce que murmure et discussion et revendication, c'est autre chose que d'aller vers les anciens pour poser des questions honnêtes. Ce n'est pas la même chose. Nous avons le droit d'aller vers les anciens, de poser des questions. Pourquoi ceci? Comment fait-il que cela? Nous avons même le droit d'exprimer un désaccord. Mais nous n'avons pas le droit de murmurer et de discuter. Parce que dans l'économie de Dieu et dans la perception de Dieu, murmurer sur ceux que Dieu a placés au-dessus de nous dans son Église, c'est murmurer contre Dieu lui-même. Et comme je le disais hier, notre manière, finalement, de répondre à l'autorité de ceux que Dieu a placés en charge de l'Église est une indication de comment nous réagissons face à l'autorité de Dieu. Paul dit, une partie de notre motivation, c'est authentifier l'Évangile vis-à-vis de ceux qui nous observent de l'extérieur. Et pour authentifier l'Évangile, nous devrions démontrer qui est le Père, comment est le Père. Et en partie, lorsque les personnes nous observent, il faut qu'ils voient qu'il y a une différence et qu'il n'y a pas dans l'Église murmure, discussion, revendication. Et puis il termine cette exhortation pour authentifier l'Évangile en disant il doit y avoir une cohérence entre le message et le messager. Vous brillez comme des flambeaux, mais vous portez la parole de vie. Il y a les deux qui vont de pair. Nous portons un message, mais le messager brille comme un flambeau. Il faut qu'il y ait toujours cohérence dans notre manière de démontrer au monde qui est le Père. Il faut qu'il y ait entre ce que nous disons et ce que nous sommes une cohérence. Messager, messager doivent être cohérents. Terminé. Maintenant avec la dernière idée dans ce texte par rapport à l'obéissance. Nous obéissons en particulier en mettant notre salut en action, à travailler à notre salut communautairement pour plaire à Dieu. Nous voulons lui être agréable. C'est la première, c'est le summum de l'obéissance, lui être agréable. Nous obéissons pour authentifier l'Évangile devant un monde corrompu et pervers, pour démontrer qui est Dieu. Et puis, certainement peut-être l'idée qui peut le plus, à la limite choquer ou déranger, mais nous obéissons pour valider le ministère de nos conducteurs spirituels. Nous obéissons parce que nous aimons nos conducteurs et nous voulons valider le ministère qu'ils ont parmi nous. Alors, bien entendu, ça peut sembler choquant, mais je vous propose que ça relève davantage de notre idéalisme déplacé sur le plan évangélique. Notre idée étriquée sur ce qu'est l'humilité. Faut-il valider le ministère de nos conducteurs spirituels? Et la réponse est oui. Paul le dit ailleurs, écoutez la parole de Dieu. Comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre au jour de Jésus-Christ. Vous serez, dit les conducteurs, Paul, à l'église de Corinthe, vous serez notre gloire au jour de Jésus-Christ. Aux Thessaloniciens, il écrit, « Qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement ?» Paul dit ici qu'une partie de la motivation dans l'obéissance est de valider le ministère de ceux qui vous ont conduit à Christ et fondé dans l'Évangile. Et Paul, et je termine avec ces deux réflexions, Paul met l'accent sur cette idée de deux manières. Il dit, ce sera mon sujet de gloire au jour de Christ de n'avoir pas couru ni peiné en vain. Cela fait depuis 45 ans que je travaille en France. Je pense que ma hantise, souvent tout au long de ces 45 années, dans les moments plus difficiles, ça a été d'avoir travaillé en vain. Travailler en vain. De quoi s'agit-il? D'avoir mal travaillé? Non, pas du tout. Paul dit travailler en vain. L'illustration que je veut utiliser pour essayer d'éclairer le texte. Vous avez une ville qui est assiégée par un ennemi. Et finalement, cette ville fortifiée, avec les murailles tout autour, avec les soldats qui sont là pour défendre la ville, sachant qu'il y a l'ennemi à l'extérieur. Et inévitablement, dans ces guerres et batailles d'autrefois, on envoyait des espions. Et tout d'un coup, on voit un soldat qui court vers la ville, et ce soldat arrive vers le commandant de l'armée pour lui dire « L'ennemi est en train de se préparer. Il faut vraiment que l'on soit prêt pour l'assaut. » Et donc, le commandant de l'armée dit à tout le monde « Mettez-vous en position pour défendre la ville. » Et tout le monde là est sur le qui-vif en attendant l'attaque. Et tout d'un coup, il y a un autre soldat qui court et qui arrive et qui va vers le commandant de l'armée pour lui dire « Fausse alerte, l'ennemi est en train finalement de se retirer. » Et donc le commandant de l'armée donne les instructions « À l'aise, maintenant, repos. » Et puis tout d'un coup, l'ennemi attaque, envahit et remporte la victoire. Le premier soldat a couru en vain. Il n'a pas mal couru. Son message était vrai, mais il a couru en vain. Et Paul exprime cette idée de valider son ministère en ces termes, de peur d'avoir couru ou peiné en vain. Tout conducteur d'une église, laissez-moi vous le dire, si vous l'ignorez, mais tout conducteur d'église, tout ancien d'église, à un moment donné, se pose parfois la question. Est-ce que je travaille en vain? Je travaille auprès de ces personnes, jour après jour, nuit après nuit, mois après mois. Est-ce que... Ce n'est pas que je travaille mal, mais est-ce que je travaille en vain? Et donc l'exhortation pour vous, membres de cette église de Casimir-Perrier, par rapport à l'obéissance, travaillez pour valider le ministère de vos conducteurs, pour qu'il n'ait jamais l'idée d'avoir travaillé inutilement. Lorsqu'ils vous enseignent, lorsqu'ils vous exhortent, lorsqu'ils vous reprennent, lorsqu'ils essaient parfois de rectifier le tir parce que finalement vous êtes en train de déraper, lorsqu'ils disent que finalement cette amertume et ce ressentiment que vous avez envers un frère ou une sœur, ce n'est pas conforme à l'Évangile. Seulement, avant toute chose, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile. Et ces amertumes, ces médisances, ce n'est pas digne de l'Évangile. Lorsqu'ils vous reprennent, alors de vous bloquer ou de vous rebiffer contre leur autorité, acceptez. Acceptez. Pour qu'ils n'aient pas l'impression d'avoir travaillé ni peiné en vain. Mais Paul termine. Et c'est certainement ce qui est le plus émouvant. Il termine en disant, même si je cède libation, en plus du sacrifice de votre foi, je m'en réjouis. C'est quoi? Exode 29, vous pouvez lire pour vous-même, mais dans l'Ancienne Alliance, il y avait un symbole ô combien fort. En Israël, tous les matins et tous les soirs, on offrait un agneau en sacrifice. Tous les matins, tous les soirs, on égorgeait un agneau pour l'offrir en sacrifice. Ce qui va choquer les Français maintenant, c'est que pour agrémenter l'odeur de ce sacrifice, on prenait 1,5 litre de Saint-Émilion pour verser sur le sacrifice, et cela pour agrémenter l'odeur. C'était ce qu'on appelait la libation. Ce n'était pas le sacrifice. Le sacrifice était l'agneau égorgé matin et soir. La libation, c'était ce 1,5 litre de vin qu'on versait sur le sacrifice qui était en train d'être consumé pour agrémenter l'odeur. Vous voyez ce que Paul est en train de dire ici? C'est profondément émouvant. Paul est en prison. Il attend de comparaître devant Néron sous peu. Il pense que probablement, il va être condamné et mourir martyr sous peu. C'est normal. Si on savait que c'était Néron qui allait nous entendre, nous écouter, Néron, c'est un fou furieux et il va probablement condamner Paul au martyr. Paul est en prison et Paul est en train de dire à l'église de Philippe, « Moi, je ne suis que la libation sur votre sacrifice. » C'est vous, église de Philippe, qui vivez le sacrifice. Et moi, tout ce que je demande, c'est le privilège de pouvoir agrémenter l'odeur de votre sacrifice. Et si je peux faire ça, je m'en réjouis. Paul dit, toute une partie de notre motivation dans l'obéissance, c'est de valider le ministère de nos conducteurs dans le Seigneur. De telle sorte qu'ils puissent effectivement nous regarder, nous, les uns les autres, comme étant la couronne de gloire lors de l'avènement de Jésus-Christ, de ne pas avoir eu l'impression de travailler, ni d'avoir peiné en vain. Mais en même temps, il dit que les conducteurs doivent considérer leur service dans l'Église comme étant comme une libation. Parce qu'ils ont un tel amour pour l'Église, un tel respect pour l'Église, qui voit l'Église, finalement, dans un monde pervers et corrompu, être en train, finalement, de démontrer qui est le Père à ce monde qui entoure. Et eux, conducteurs de l'Église, ils veulent, en quelque sorte, agrémenter l'odeur de votre sacrifice en étant à votre service. Image extraordinaire. Avant toute chose, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile. L'obéissance ne doit jamais être érigée en but en soi, ni finalement devenir prétexte pour tyrannie. L'obéissance est toujours consentie de la part du chrétien, parce que nous sommes profondément désireux de plaire à Dieu. Et par conséquent, nous allons ensemble, communautairement, travailler à notre salut pour que le salut soit davantage une réalité. Dans 5 ans, l'église de Casimir Perrier et les membres de l'église de Casimir Perrier ne doivent pas être au même point qu'ils le sont aujourd'hui. Nous travaillons à notre salut pour plaire à Dieu. Mais nous obéissons également pour authentifier le message auprès de tous ceux qui nous observent. Et notre objectif est de montrer qui est et comment est le Père. Et nous démontrons ça en grande partie en refusant tout ce qui est mauvais rapport avec l'autorité, insoumission, murmure, revendication. Nous écartons toutes ces choses pour montrer que la communauté de Dieu est différente. Et nous obéissons également pour valider le ministère de nos conducteurs, pour que dans leur labeur, leur peine, leurs larmes et leur joie, ils n'aient jamais l'impression d'avoir travaillé en vain. Et si vous avez l'attitude, une telle attitude vis-à-vis de vos conducteurs, ça va changer de bout en comble l'attitude de vos conducteurs à votre égard, parce qu'ils vont pouvoir se réjouir d'être la libation sur votre sacrifice. L'obéissance, c'est un privilège extraordinaire, totalement différent du légalisme qui si facilement peut nous enlacer dans ses griffes et où on travaille que pour plaire aux autres ou que pour plaire à nous-mêmes. Ce n'est pas le but. On va prier.